Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce mardi 10 novembre avec vous Christophe Mallet et Jean-Noël Ducasse. Au sommaire, le journal Les Sports, le journal de la semaine en France. On marquera NAIDOC Week pour rendre hommage à la communauté aborigène en Australie avec The Uluru Statement from the Heart en version française. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Les grands titres de ce mardi 10 novembre, la lutte contre le Covid-19 et les laboratoires Pfizer et BioNTech annoncent que son candidat vaccin est efficace à 90% contre le virus. Le député travailliste Joel Fitzgibbon a quitté le front bench du Parti travailliste après des désaccords internes sur la politique énergétique. L'Arménie et l'Azerbaïdjan signent un cessez-le-feu total. La lutte contre le Covid-19 et les laboratoires Pfizer et BioNTech annoncent que le candidat vaccin est efficace à 90% contre le virus. Précision de Pascal Thibault pour Radio France Internationale.
Les données sont très encourageantes. Je me réjouis qu'une entreprise allemande figure parmi les premières à annoncer un succès, mais cela ne signifie pas que le vaccin sera introduit sur le marché demain. Le ministre de la Santé allemand, Jens Spahn, s'est montré prudemment optimiste après l'annonce de la société de Mayence, BioNTech, alliée au géant américain Pfizer. La communauté scientifique allemande salue cette avancée, mais attend de disposer de plus de détails pour porter un jugement plus précis sur le nouveau produit. C'est en tout cas un succès pour la société BioNTech, dirigée par un couple d'origine turque, qui a lancé ses recherches dès le début de l'année et est à l'origine du vaccin. L'entreprise a bénéficié d'un soutien financier du gouvernement allemand de 375 millions d'euros ces derniers mois. Comme son allié Pfizer, BioNTech, qui compte 1300 salariés, a déjà pris des mesures pour développer ses sites de production en Allemagne et faire face, en cas de succès, à une forte demande. Le cours de la société à la bourse de Francfort a augmenté de près de 20% lundi. La valeur de BioNTech est désormais estimée à 25 milliards de dollars.
Le président élu des États-Unis, Joe Biden, exhorte le public américain à porter des masques. Cela survient alors que le pays devient le premier au monde à dépasser les 10 millions d'infections dues au coronavirus, alors qu'une autre vague du virus déferle à travers le pays. Le président élu a déclaré qu'il travaillait avec un task force sur le coronavirus pour veiller à ce que les États-Unis soient mieux préparés pour les mois à venir.
The process must also be grounded in science and fully transparent so the American people can have every confidence that any approved vaccine is safe and effective. The challenge before us right now is still immense and growing. There's a need for bold action to fight this pandemic. We're still facing a very dark winter.
Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré que l'Angleterre se dirigeait vers les niveaux maximaux d'une précédente vague de Covid-19 dans le pays. Boris Johnson a déclaré que des tests du virus dans la ville du nord-ouest de Liverpool aideraient à freiner le Covid-19. Le virus entraîne un nombre croissant de décès et d'hospitalisations. Le programme soutenu par l'armée vise à aider les équipes de santé publique à retracer les porteurs symptomatiques et asymptomatiques, ainsi que leurs contacts.
The death figures are rising, running at an average of 300 a day, sadly double where they were 24 days ago. The number of COVID patients in hospital has risen from just over 10,000 2 weeks ago to nearly 13,000 on the 5th of November.
La France impose le confinement des volailles de 46 départements par crainte de la menace d'une épidémie de grippe aviaire en Europe. Précision d'Agnès Rougier pour RFI.
Ce virus hautement pathogène est très rarement transmissible à l'homme. En revanche, les volailles d'élevage sont en première ligne des contaminations. Le virus de la grippe aviaire se propage très rapidement entre les oiseaux, soit par transmission directe en cas de contact rapproché entre individus, soit par transmission indirecte, par l'exposition à des matières contaminées comme la nourriture, l'eau ou le matériel. Et c'est un virus qui entraîne une mortalité très élevée. L'été dernier, des foyers de grippe aviaire se sont déclarés en Russie et au Kazakhstan. Puis le virus a voyagé vers l'ouest avec les oiseaux migrateurs et l'épidémie s'est emballée, atteignant les Pays-Bas, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Plusieurs cas sont apparus dans des élevages néerlandais et le gouvernement a d'ores et déjà décidé de procéder à l'abattage massif de 215 000 poules pondeuses dans un élevage au sud du pays. En Allemagne, un élevage de la région de Hambourg a été touché et le Royaume-Uni a déclaré un premier foyer dans un élevage au nord-ouest de l'Angleterre. En raison du risque élevé de contamination, les autorités françaises ont donc ordonné le confinement des volailles dans 46 départements.
En Australie, les familles dans le Victoria bénéficieront des services gratuits de la maternelle à partir de l'année prochaine, a annoncé le chef de l'État, Daniel Andrews. Le budget 2020-2021 fournira jusqu'à 169 600 000 dollars pour rendre le kinder gratuit. Cela permettra aux familles d'économiser environ 2 000 dollars pour chaque enfant inscrit à un programme de maternelle financé. L'annonce arrive alors que le Victoria n'enregistre aucun cas de coronavirus pour un 11e jour consécutif ce mardi. Daniel Andrews déclare que la mesure vise à aider les femmes à reprendre le travail et aussi à réduire le stress.
This is all about household budgets and supporting families with more money in their pocket instead of having to pay for things that are critically important. Those things become free. But also there are many schools that don't run before and after school care. And we think that this is just a logical next step to take to support mums and dads and our smallest Victorians, but most particularly to support women who have been very hard hit by the pandemic this year.
Le député travailliste Joel Fitzgibbon a quitté le front bench du Parti travailliste après des désaccords internes sur la politique énergétique. Le député de la faction de droite du parti a exhorté le Labour à soutenir les emplois dans les industries de gaz et du charbon par rapport à l'action contre le changement climatique. Fitzgibbon était en charge des portefeuilles de l'agriculture et des ressources.
After 14 years of trying, the Labour Party has made not one contribution to the reduction of greenhouse gas emissions in this country. So if you want to act on climate change, the first step is to become the government. And to become the government, you need to have a climate change and energy policy that can be embraced by a majority of the Australian people. That is something we have failed to do for the last 7 or 8 years.
Le paiement de chômage Job Seeker sera prolongé de 3 mois à un taux inférieur. Le paiement comprendra un supplément de 150 dollars par quinzaine, prolongé jusqu'au 28 mars. Le supplément actuel est de 250 dollars par quinzaine et va expirer le 31 décembre. Le procureur général Christian Porter a nié les allégations concernant sa conduite liée à un incident présumé où il a été vu en train de boire en public avec une employée. Il a qualifié les allégations qui ont été diffusées hier soir sur le programme ABC Four Corners de diffamatoires et il déclare qu'il envisage ses options juridiques. L'ancien Premier ministre libéral Malcolm Turnbull a déclaré sur Four Corners qu'il avait parlé à Christian Porter concernant des informations selon lesquelles il avait été vu en train de trop boire et en compagnie de jeunes femmes. Comportement que l'ancien Premier ministre a qualifié de conduite inacceptable d'un ministre du cabinet. Christian Porter déclare qu'il a démenti les informations faites à Malcolm Turnbull 2 semaines avant d'être nommé procureur général en décembre 2019. Malcolm Turnbull a déclaré sur le programme Q&A de l'ABC hier soir qu'il n'était pas au courant de l'histoire complète.
Basically, my advice to him was this sort of thing must never happen again. Now, from my point of view, ministers should behave themselves decorously.
Le ministre de la Population, des Villes et des Infrastructures Urbaines, Alan Tudge, a également fait figurer sa vie personnelle dans le programme Four Corners. Dans un communiqué, il dit qu'il regrette énormément ses actions et le mal que cela a causé à sa famille. Aux États-Unis, les républicains sont divisés sur Donald Trump, qui refuse toujours de reconnaître sa défaite. Explication de Muriel Paradon pour RFI.
George W. Bush, l'ancien président, a été le premier ténor républicain à reconnaître la victoire de Joe Biden. Il l'a félicité, je cite, pour le message patriotique qu'il a adressé à la nation samedi soir. Donald Trump a le droit de demander un recomptage des voix, a poursuivi George W. Bush, mais les Américains peuvent avoir confiance dans cette élection honnête dont l'intégrité sera confirmée. Le message est donc clair. À l'inverse, certains continuent de soutenir Donald Trump bec et ongle, comme l'influent Lindsey Graham, qui préside la commission judiciaire au Sénat. Il parle de magouille et appelle les soutiens de Donald Trump à se battre jusqu'au bout. Mais au sein du parti républicain, beaucoup ne se prononcent pas. Ils sont dans l'attentisme. Dans leur ligne de mire, un scrutin en janvier pour le contrôle du Sénat, qui est pour l'instant aux mains des républicains. Et si l'on se projette plus loin, il y a l'élection présidentielle de 2024. Donald Trump a réussi à fédérer une base solide derrière lui au sein du parti et il faudra sans doute compter avec elle.
Et Donald Trump a limogé son ministre de la Défense, Mark Esper. Il est le quatrième ministre de la Défense à être renvoyé de ses fonctions en 4 ans. Anne Corpé, RFI.
C'est la coutume instaurée par ce président hors norme. Il se débarrasse de ses ministres par réseau social interposé. Il précise sur Twitter que Christopher Miller prend ses fonctions immédiatement à la tête du Pentagone. Chris va faire un super travail. Mark Esper est limogé. Je le remercie pour son service, écrit-il en employant un terme un peu brutal, terminated, qui peut aussi pouvoir dire liquidé. 2 jours après l'annonce de sa défaite face à Joe Biden, le président conserve toutes ses prérogatives et entend bien le monde. Ses relations avec son secrétaire à la Défense sont tendues depuis le mois de juin dernier. Mark Esper avait estimé à l'époque que les troupes ne devaient pas être envoyées pour endiguer la vague de manifestations qui secouait toutes les villes du pays dans le cadre du mouvement pour plus de justice raciale. Donald Trump souhaitait, lui, que les militaires prennent le contrôle de la situation en activant une loi sur l'insurrection. Le président n'a pas apprécié non plus que Mark Esper fasse retirer le drapeau confédéré de toutes les bases militaire du pays qui hissait encore ce symbole de la ségrégation. Selon les médias américains, Mark Esper avait déjà rédigé depuis plusieurs semaines sa lettre de démission.
En Afrique, en Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel a confirmé hier, lundi, les résultats proclamant la victoire d'Alassane Ouattara à la présidentielle du 31 octobre dès le premier tour. Le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et un accord de cessez-le-feu total sur le point d'être signé sous l'égide des Russes. On passe à la météo pour ce mardi en Australie, à Perth, il fera 20 degrés. Adélaïde, 36 degrés. Melbourne, 30. Hobart, 27. Canberra, 25. Sydney, 24. Brisbane, 26. Cairns, 30. Darwin, 35. Et à Alice Springs, un maximal de 40 degrés. Un rappel des grands titres de ce 10 novembre, la lutte contre le Covid-19 et les laboratoires Pfizer et BioNTech annoncent que le candidat vaccin est efficace à 90% contre le virus. Le député travailliste Joel Fitzgibbon a quitté le front bench du Parti travailliste après des désaccords internes sur la politique énergétique. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Journal des sports et on commence bien avec du tennis et la finale du Masters 1000 de Paris, tournoi remporté par le russe francophone, vous allez le voir, Daniil Medvedev.
C'est vraiment une victoire magnifique. Et je suis très content de tout, de mon niveau de jeu, mon comportement mental. Parce que, bien sûr, les dernières semaines, c'était pas comme je veux. Quand t'es top 10, tu veux que des titres. Je peux dire que je pouvais, après Saint-Pétersbourg, Vienne, être un peu défait. Et par exemple, me permettre de, je sais pas, s'entraîner moins bien, d'être un peu bas mentalement. Mais moi, je savais qu'il faut continuer à pousser. Et à un moment, ça va revenir. C'était pas sûr que ça revienne cette année. Mais finalement, ça a revenu ici, à Paris, les bonnes sensations de tennis. Et je suis très content de tout. Et bien sûr, d'avoir un titre, c'est vraiment un, comment on dit, un cherry on the cake. Je sais pas comment dire en français, mais c'est vraiment très beau.
Voilà donc Medvedev, le vainqueur du Masters 1000 de Paris, en français dans le texte. Explication sur ce tournoi et surtout sur cette finale avec Eric Mamrut.
Entre le numéro 5 et le numéro 7 mondial, on ne pouvait avoir qu'une finale accrochée et indécise. Elle a été longtemps, Zverev et Medvedev se sont livrés à une belle bagarre avec des échanges très longs, très intenses. L'Allemand prenant le meilleur départ sur la lancée de sa victoire de la veille face à Rafael Nadal, en pleine confiance qu'il était, et également après les deux titres remportés à Cologne avant de venir à Paris. Il a réussi à faire la petite différence dans le premier set, remporté 7-5. Mais en face, Medvedev n'a pas faibli. Bien au contraire, il durcissait encore le jeu pour faire plier petit à petit l'Allemand. Résultat, une deuxième manche arrachée 6-4 par le Russe, qui sauvait ensuite 4 balles de débreak, 1-0 en sa faveur en début de troisième set. Le coup de trop pour Zverev qui rompait alors totalement pour s'incliner, épuisé, 6-1. Succès en trois manches donc pour Medvedev qui s'offre sa première victoire à Paris. Le Russe, demi-finaliste du récent US Open qui avait été décevant par la suite, il est arrivé cette semaine à retrouver ses meilleures sensations pour venir décrocher à Bercy le 8e titre de sa carrière, le 3e en Masters 1000.
Eric Mamrut donc sur cette finale du tournoi du Masters 1000 de Paris. On va écouter également une réaction, celle de Guy Forget, le directeur du tournoi. Il est content et il est soulagé que le tournoi ait bien eu lieu, Guy Forget.
À chaque fois que les joueurs ont quitté Paris, ils sont venus nous voir, ils nous ont dit bah merci. Merci d'avoir maintenu ce tournoi. Ils se rendent bien compte qu'une salle vide, c'est difficile, surtout pour les organisateurs. Tout ça, ça a un coût et qu'aujourd'hui, on a pris le pari de les soutenir, de soutenir l'ATP, qui traverse là aussi une situation difficile, comme la WTA du reste. Hein. Donc, on l'a fait. Ce qu'il fallait, c'est arriver à l'équilibre financier, déjà ne pas perdre d'argent. Grâce aux autres tournois des Master 1000, on a pu justement équilibrer le budget sur ce tournoi, ce qui est une chose extrêmement positive parce qu'on a pu quand même payer les joueurs, même s'ils ont eu une réduction de 40% de leur prix. Ils sont venus quand même tous très nombreux. La qualité du jeu vraiment était présente. Maintenant, si vous me parlez de, effectivement, du nombre de spectateurs dans les gradins, je vais pas vous dire, ouais, youpi, super. Non, j'étais triste comme vous. Maintenant, il faut peut-être en passer par là et puis on profitera l'année prochaine de tribunes beaucoup plus garnies parce que dans des immenses stades, faire venir 1000 personnes avec un masque et en respectant les distances et les gestes barrières, je crois qu'on peut, c'est des choses qu'on peut arriver à maîtriser. Voilà, c'est ce que je nous souhaite pour l'avenir.
Voilà donc Guy Forget pour le tournoi du Masters 1000 de Paris. La Vuelta, le Tour d'Espagne, qui était d'ailleurs en direct sur SBS tous les soirs, c'est terminé. Victoire du Slovène Primož Roglič.
Thank you for congrats. It was a tough race. A lot of difficult moments. But for sure, when we had problems with the rain. With the rain jackets in that rainy stage, that was really crucial. Angliru was also not the nicest, but with the whole team and all the support, I managed to go through, and at the end we won.
Voilà donc Primož Roglič, le vainqueur du Tour d'Espagne, de la Vuelta, il conserve son titre. Il avait gagné ce Tour d'Espagne l'année dernière. On se souvient, il avait été malheureux à l'avant-dernière étape du Tour de France cette année. Il avait donc perdu juste de quelques secondes dans le contre-la-montre. Mais voilà, il se console cette année en tout cas avec le Tour d'Espagne. Vous le savez peut-être, mais c'était le début du Vendée Globe Challenge, le Vendée Globe 2020. C'était il y a quelques jours. Retour sur ce lancement mythique, c'est une course à la voile mythique avec Grégory Lesca.
Course à la voile, autour du monde en solitaire et sans escale. 33 navigateurs sont, 6 femmes, un record, contexte sanitaire obligé. Et c'est évidemment particulier pour tous, notamment pour le benjamin de la flotte, le Suisse Alan Roura, 27 ans, qui prend le départ de son deuxième Vendée Globe. Il est joint par Thomas de Saint-Léger.
Je pense que ça va être difficile pour tous les marins, le fait de partir dans ce genre de conditions. Alors nous, c'est sûr que c'est un bol d'air. Les gens imaginent que, bon, bah voilà, on va profiter. Alors, bon, on va profiter. C'est sûr qu'on n'aura pas de masque, pas de gel hydroalcoolique à bord parce que, bon, on est tout seul. Le bateau est entièrement désinfecté avant de partir. Par contre, de savoir sa famille, ses proches confinés, ça complique pas mal les choses. Ça peut être difficile aussi pour les marins. Moi, je ne le vis pas comme un échappatoire, on va dire, de ce monde, surtout qu'on ne sait pas comment va être l'Europe à notre retour. Donc, voilà, on part maintenant, on sait comment c'est, mais bon, j'attends de voir dans quelques semaines.
Le navigateur suisse Alan Roura qui participe avec son bateau La Fabrique à ce Vendée Globe.
Grégory Lesca, donc pour le Vendée Globe. Vendée Globe que vous pouvez suivre d'ailleurs sur SBS en demande. Allez, on va faire un point football pour conclure ce journal des sports pour aujourd'hui. Tour d'horizon, Espagne-Italie avec Cédric De Oliveira.
En Espagne, le leader, c'est la Real Sociedad qui a obtenu sa 5e victoire consécutive face à Grenade 2-0. Énorme contre-performance du Real Madrid qui a sombré 4-1 à Valence et qui est désormais 4e. Et puis en Italie, Naples s'est imposé 1-0 à Bologne grâce au Nigérian Victor Osimhen. La Juventus Turin a elle été accrochée 1-1 sur la pelouse de la Lazio Rome malgré un but de Cristiano Ronaldo. La vieille dame est 5e de Serie A. Le célèbre numéro 7 est sorti à un quart d'heure de la fin en boitant. Il souffre de la cheville droite et pourrait déclarer forfait pour les matchs du Portugal, notamment face à la France samedi en Ligue des Nations.
Voilà donc pour le football européen et petit détour également par l'Angleterre et surtout ce match choc qui a eu lieu entre Liverpool et Manchester City. Discussion entre Olivier Pron et Philippe Auclair.
Première mi-temps absolument époustouflante avec une équipe de Liverpool qui avait commencé pied au plancher, une équipe de Manchester City qui était parvenue à revenir dans le match et avait même failli passer à 2-1 si Kevin De Bruyne n'avait pas, chose invraisemblable, manqué un penalty. Et une deuxième période pendant laquelle franchement on a vu quelque chose d'ailleurs que l'on voit, je pense, qu'on a vu dans beaucoup d'autres matchs de Premier League ainsi que dans d'autres grands matchs des championnats européens cette semaine, c'est le fait que le rythme de ces rencontres, le calendrier tout simplement trop chargé, je crois tout simplement, Olivier, que les joueurs étaient tout simplement, vous excuserez l'expression, cramés.
Cuit,
voilà. Cuit, eh ben, cuit. Cramés.
Ça s'est vu.
Carbonisés. Et que c'est pas le seul match dans lequel ça soit produit, mais après une première période bon, qui a été absolument éblouissante avec une nouvelle fois un Sadio Mané des très très grands jours. Mais je ne sais pas s'il a beaucoup d'autres jours qui ne sont pas très grands depuis le début de cette saison. Il a été absolument fantastique. Mais bon, score final, 1-1. Ce qui fait quand même les affaires de Liverpool qui reste à proximité du leader Leicester City qui a gagné 1-0 contre les Wolves et une équipe de Manchester City bah, qui est toujours en milieu de tableau avec seulement 12 points après 7 matchs.
Et voilà donc pour le football étranger, football européen, tour d'horizon du football français, cette fois-ci avec Thomas de Saint-Léger.
Tino Kadewere, oui, nouveau héros lyonnais, le Zimbabwéen sorti du banc et de sa boîte pour renverser le derby du Rhône, Lyon-Saint-Etienne. Deux jolis buts en un peu plus de 30 minutes pour une victoire 2-1 de l'OL, 5e de Ligue 1 après 10 journées pour les Verts. La chute vertigineuse se poursuit, 6e défaite de rang, 15e place au classement, dur pour le défenseur camerounais Harold Moukoudi.
Ça c'est joué à des détails, ça a été bien joué de leur part, peut-être un manque de concentration de la nôtre. Je serais pu basculer d'un côté comme de l'autre, ça a basculé du côté lyonnais, c'est dommage, mais je pense qu'on va retenir qu'on a fait un bon match dans l'ensemble, en tout cas du moins dans ce qu'on a pu produire par séquence, c'était pas mal.
Harold Moukoudi au micro de Téléfoot a signalé aussi la première défaite de Lille 3-2 à Brest. Monaco est allé gagner 2-1 à Nice. 1-1 entre Metz et Dijon. 5-1 pour Angers à Nîmes grâce au doublé du Camerounais Stéphane Bauken. Match nul très spectaculaire entre Lens et Reims. 4-1. Score final.
Thomas de Saint-Léger. Voilà, c'est tout pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS. À tout de suite.
Vous aimez le programme en français ?
continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Et comme chaque mardi, place à l'actualité française. Pour nous en parler, nous sommes en ligne avec Émile Matasso. Bonjour Émile.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
Alors à la une, les 50 ans de la mort du général de Gaulle. Et pour l'occasion, le président français Emmanuel Macron a fait le déplacement à Colombey-les-Deux-Églises.
Oui, Colombey-les-Deux-Églises, cette commune de la Haute-Marne, Colombey-les-Deux-Églises et ses 700 habitants. Aujourd'hui, c'est là que repose le général de Gaulle, là qu'il s'est retiré à la fin de sa vie et là qu'il s'est éteint le 9 novembre 1970, il y a 50 ans. Et donc, pour célébrer les 50 ans de sa mort, eh bien, une journée d'hommage s'est tenue ce lundi 9 novembre. Une cérémonie sur place, mais très très sobre, hein, contexte sanitaire oblige. La France est de nouveau en confinement, hein, depuis 10 jours. Emmanuel Macron, le président français, n'a pas tenu de discours sur place, mais il s'est rendu à Colombey-les-Deux-Églises avec son épouse Brigitte. Il est allé rendre hommage au général de Gaulle, figure incontournable, incontournable le pèlerinage à Colombey-les-Deux-Églises. Alors Emmanuel Macron s'y est déjà rendu, hein, depuis le début de son quinquennat, mais ce pèlerinage, eh bien, tous ses prédécesseurs l'ont effectué à un moment donné, de Nicolas Sarkozy à François Hollande, en passant par Jacques Chirac. Le général de Gaulle, c'est tout à la fois l'appel à la résistance du 18 juin 1940, cet appel lancé de Londres, alors que la France était en débâcle face à l'Allemagne nazie, l'appel à la résistance. Le général de Gaulle qui ensuite allait diriger la France à la sortie de la guerre, de juin 1944 à janvier 1946. Mais surtout, le général de Gaulle, plus de 10 ans plus tard, allait revenir pour devenir le président de la République, président de la Ve République de 1958 à 1969, 10 ans au pouvoir, un président élu au suffrage universel pour la première fois, la droite française s'est toujours revendiquée du gaullisme, hein, de cet héritage, mais la figure du général, elle dépasse les guerres partisanes. Et aujourd'hui, quand vous écoutez un petit peu ce qui se dit de l'extrême gauche, la France insoumise, au rassemblement bleu marine de Marine Le Pen, l'extrême droite, tous les partis ou presque se revendiquent d'une façon ou d'une autre de l'héritage du général de Gaulle quand il est question, eh bien, de mettre en avant la grandeur perdue, la grandeur de la France, son indépendance, ses valeurs, etc., etc. Alors, avant de se rendre à Colombey-les-Deux-Églises ce lundi, Emmanuel Macron a envoyé ce message sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Je vais vous le lire. « Résilience et volonté, cet esprit fut incarné par Charles de Gaulle, engagé pour la France dans les moments de douleur comme dans ceux de gloire. Cet esprit, ajoute Emmanuel Macron, cet esprit est un héritage, celui de la France. » Ce message du chef de l'État est accompagné sur Twitter d'une vidéo d'une minute 45 où l'on voit des images d'archives et où l'on entend le général de Gaulle, mais aussi la voix d'Emmanuel Macron qui, en off, voix off, ajoute quelques commentaires. La cérémonie de Colombey-les-Deux-Églises, nous l'avons dit, elle s'est tenue dans un cercle très restreint, une trentaine de personnes, des membres de sa famille qui étaient là, des descendants. Et ensuite, eh bien, les avions de la patrouille de France ont survolé l'immense croix de Lorraine, hein, 43 mètres de haut, cette croix qui domine Colombey-les-Deux-Églises et au pied de laquelle on trouve le mémorial Charles de Gaulle, ce mémorial qui retrace la vie du général.
Et l'autre actualité, c'est évidemment la pandémie de Covid-19 et quelques signes encourageants.
Oui, alors ces signes encourageants, c'est le nombre de personnes admises en réanimation ou aux urgences qui a un tout petit peu diminué ces derniers jours en Île-de-France. Il y en a un petit peu moins chaque jour, en région parisienne en tout cas, et cela peut laisser penser que les mesures prises depuis 3 semaines, d'abord le couvre-feu à partir de 21h, puis finalement un confinement généralisé pour tous les Français, sauf dérogation pour aller travailler et pour les élèves, on y reviendra tout à l'heure, que ces mesures commencent à porter leurs fruits. Mais attention, attention, hein, les chiffres n'en restent pas moins très inquiétants. Depuis 10 jours, entre 40 et 50 000 nouvelles personnes sont testées positives au Covid-19 tous les jours en France, avec quelques 4 500 personnes qui se trouvent en ce moment en réanimation. Et le nombre de décès quotidiens, il se chiffre en plusieurs centaines. On vient de dépasser d'ailleurs le seuil des 40 000 morts en France du coronavirus, des suites du coronavirus, depuis le début de l'épidémie. Alors, les régions les plus engorgées, l'Île-de-France, mais aussi le Grand Est et la région Rhône-Alpes, le ministre de la Santé, Olivier Véran, il a reconnu ce week-end que les premières mesures de reconfinement avaient, je cite, « permis d'avoir une forme de ralentissement de la progression de l'épidémie », tout en précisant qu'il était encore trop tôt pour juger de l'effet. Et on l'avait vu effectivement fin septembre, quand depuis plusieurs semaines tous les chiffres étaient repartis à la hausse, il y avait une sorte de tassement où on pouvait penser que l'on allait échapper à cette deuxième vague. Et finalement, les chiffres étaient repartis de plus belle à la hausse début octobre pour nous mener jusqu'à ce nouveau confinement. Le gouvernement, il se donne encore 1 à 2 semaines pour faire le point, pour prendre ou pas de nouvelles mesures. Il n'est pas exclu qu'on durcisse le confinement actuel. En tout cas, nous n'en sommes absolument pas à parler d'un déconfinement. Au contraire, chacun semble se faire à l'idée, bien que nous sommes partis pour de longues semaines de restrictions de liberté. Et la frontière est parfois difficile à saisir entre ce qui est autorisé de faire et ce qui ne l'est pas. Vous êtes obligé en effet de justifier toutes vos sorties de chez vous par une dérogation, un papier que vous devez remplir. Mais dès lors que les cours continuent pour les 12 millions d'élèves et que dans le même temps le but est de ne pas casser la dynamique des entreprises, qu'il faut continuer à travailler, c'est un jeu d'équilibriste, hein. Tous les petits commerces non essentiel, même si ce terme non essentiel a heurté les commerces concernés. Tous les petits commerces ont dû fermer, mais dans les grandes entreprises, dans le secteur tertiaire notamment, l'activité, elle continue. Et la ministre du Travail, Elisabeth Borne, eh bien, elle a tapé du poing sur la table ces derniers jours. Elle a rappelé que partout où c'était possible, le télétravail, le travail à distance, devait devenir la règle. Dans l'absolu, c'est une obligation, ce n'est pas facultatif, a-t-elle martelé. Or, nombre d'entreprises continuent de faire venir, alors certes pour 1 jour, 2 jours, 3 jours par semaine et pas 5, mais continuent de faire venir les salariés sur place, sur site. Ces milliers, dizaines, centaines de milliers d'entreprises qui, après les 2 mois de confinement stricts entre mars et mai, se sont organisés ensuite pour faire revenir les salariés sur site, hein, le déconfinement du mois de mai, du mois de juin, au prix de protocoles sanitaires souvent très contraignants et très coûteux. Toutes ces entreprises, elles ont trouvé en quelque sorte eh bien, leur rythme de croisière entre présence sur site, quelques jours par semaine, et le télétravail. Et là, eh bien, l'idée de dire à tout le monde, à tous les salariés de nouveau, restez chez vous, cela n'enchante pas vraiment les patrons. Le premier confinement, il a laissé des traces, hein. Vous avez des salariés, des Français, qu'il a fallu faire revenir, qui ne voulaient plus, qui avaient peur, par crainte. Il y a des angoisses qui se sont exprimées, qui ne voulaient plus revenir sur leur lieu de travail. Donc, pas facile de garder le lien avec son employeur, son activité, quand on est pendant 2 mois chez soi devant son ordinateur. Pour l'instant, même si le gouvernement a décrété l'urgence sanitaire, la loi n'interdit pas, pour une entreprise qui est autorisée à continuer son activité, la loi ne l'interdit pas à faire venir ses employés. Et donc, là encore, c'est un jeu d'équilibriste, de confiance entre les entreprises, entre le gouvernement. Le gouvernement met la pression sur les patrons pour que l'activité économique, eh bien, elle ne s'arrête pas, qu'on ne casse pas la production intérieure brute, hein, ce fameux PIB, mais d'un autre côté, les autorités sanitaires, les autorités politiques demandent aux entreprises de tout faire pour stopper la circulation de ce maudit virus.
Merci Émile d'avoir décrypté l'actu française pour nous cette semaine.
Merci, merci, à bientôt.
À la semaine prochaine, on fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS, à tout de suite.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Au mois de mai 2017, des délégués aborigènes et indigènes du détroit de Torres se sont réunis près d'Uluru dans le cadre de la première convention constitutionnelle des peuples premiers et ont adopté la déclaration d'Uluru. Je vous propose The Uluru Statement en version française, réalisé par notre collègue Bertrand Tungandamé.
Au mois de mai 2017, des délégués aborigènes et indigènes du détroit de Torres se sont réunis près d'Uluru dans le cadre de la Convention constituante des peuples premiers d'Australie et ont adopté la déclaration d'Uluru. Cette déclaration propose un changement à la constitution australienne pour reconnaître les peuples premiers d'Australie dans la constitution et lancer les bases pour un avenir fondé sur la justice et l'autodétermination. Réunis à la Convention constitutionnelle nationale de 2017, National Constitutional Convention, et provenant de tous les horizons sous le ciel de l'hémisphère sud, nous faisons cette déclaration du fond du cœur. Nos tribus aborigènes et indigènes du détroit de Torres étaient les premières nations souveraines du continent australien et de ses îles voisines et l'ont possédé selon nos propres lois et coutumes. Nos ancêtres l'ont fait selon l'estimation de notre culture depuis la création, selon le droit commun depuis les temps immémoriaux et selon la science il y a plus de 60 000 ans. Cette souveraineté est une notion spirituelle, le lien ancestral entre la terre ou la mère nature et les peuples aborigènes et indigènes du détroit de Torres qui y sont issus, y restent attachés et doivent un jour y retourner pour être réunis avec nos ancêtres. Ce lien est la base pour notre possession ou mieux, souveraineté de cette terre. N'a jamais été cédée ou anéantie et elle coexiste avec la souveraineté de la couronne. Comment pourrait-il en être autrement? Que des peuples aient possédé une terre pour 60 000 ans et que ce lien sacré disparaisse de l'histoire du monde en seulement 2 siècles? Avec un changement constitutionnel substantiel et une réforme structurelle, nous pensons que cette souveraineté ancienne pourra transparaître comme une expression plus complète du statut des nations de l'Australie. Nous sommes proportionnellement le peuple le plus incarcéré de la planète. Nous ne sommes pas par nature un peuple criminel. Nos enfants sont arrachés de leur famille à un rythme sans précédent. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas d'amour pour eux. Et nos jeunes dépérissent en détention à nombre scandaleux. Ils devraient être notre espoir pour l'avenir. Ces dimensions de notre crise montrent pleinement la nature structurelle de notre problème. C'est la souffrance de notre impuissance. Nous voulons des réformes constitutionnelles pour donner à nos peuples les moyens d'agir et prendre la place qui nous est due dans notre propre pays. Quand nous pourrons gérer notre destinée, nos enfants s'épanouiront. Ils marcheront dans 2 mondes et leur culture sera un cadeau pour leur pays. Nous appelons à la création d'une voix de peuple premier, First Nations Voice, inscrite dans la Constitution. Makarrata est le point culminant de notre programme, le rassemblement après une lutte. Il reflète nos aspirations pour une relation juste et sincère avec le peuple australien et un meilleur avenir pour nos enfants, fondé sur la justice et l'autodétermination. Nous demandons la création d'une commission Makarrata pour superviser un processus d'accord entre les gouvernements et le peuple premier et révéler la vérité sur notre histoire. En 1967, nous avons été pris en compte. En 2017, nous demandons d'être entendus. Nous quittons notre camp de base et commençons notre longue marche à travers ce vaste pays. Nous vous invitons à marcher avec nous dans un mouvement du peuple australien pour un avenir meilleur.
Demain, le 11 novembre, Remembrance Day, pour marquer cette journée, je vous propose ce reportage de Franck Alexandre de Radio France Internationale sur le centenaire du soldat inconnu. C'était le 11 novembre 1920, le corps d'un soldat français arrivé à l'Arc de Triomphe à Paris.
Au lendemain de la sanglante bataille de Verdun, décision est prise d'honorer l'ensemble des morts par le choix de l'un d'entre eux. 1920 sera l'année du soldat inconnu inhumé sous l'Arc de Triomphe après un long périple. Jean-François Dubos, conservateur au service historique de la Défense.
Le 9 novembre, le cercueil du soldat inconnu va être choisi. Le 10 novembre, son corps est acheminé à Paris. Il y a une veillée funèbre qui se tient à la place d'Enfer Rochereau. Et le 11, après un passage au Panthéon au cours duquel on va déposer le cœur de Gambetta, le soldat inconnu est amené à l'Arc de Triomphe, où il est installé dans l'un des piliers de l'Arc.
8 morts anonymes, chacun tombé sur l'un des 8 grands champs de bataille de la Grande Guerre, avaient été sélectionnés au sein de la citadelle de Verdun. C'est à Auguste Thin, jeune caporal du 132e régiment d'infanterie, que revient la lourde tâche de choisir lequel rejoindrait Paris.
Il faut imaginer Auguste Thin un peu déstabilisé par cette demande que lui fait directement André Maginot. Et pour matérialiser son choix, il doit déposer un petit bouquet de bleuets sur celui des cercueils qu'il aura retenu. Auguste Thin ne sait pas comment choisir et il a une idée. Il appartient au 132e régiment d'infanterie, il additionne les chiffres qui composent son unité et donc il va désigner le 6e cercueil en déposant le bouquet sur celui-ci.
Le soldat inconnu incarne aussitôt une forme de pérennité de la République, raison pour laquelle le 11 novembre 1940 se déroule sous l'Arc de Triomphe un événement fondateur, Jean-François Dubos.
Alors que l'occupant nazi a interdit les manifestations patriotiques, des étudiants vont se réunir malgré tout sur la tombe du soldat inconnu. C'est un acte de résistance, même s'il ne dit pas son nom, et c'est un acte qui est particulièrement intéressant à mon avis, parce qu'il est l'œuvre de jeunes gens qui ont une vingtaine d'années. Donc ils ne se rendent pas sur la tombe d'un camarade tombé au front, comme ont pu le faire leurs parents, mais ils se rendent sur la tombe d'un jeune homme qui finalement incarne cette continuité. On peut même peut-être penser que le général de Gaulle, lors de son célèbre appel du 18 juin, lorsqu'il évoque la flamme de la résistance qui ne doit pas s'éteindre et qui ne s'éteindra pas, fait peut-être une allusion indirecte à cette flamme qui veille au-dessus de la tombe du soldat inconnu.
Le soldat inconnu, un symbole repris par une trentaine de nations, du cimetière militaire américain d'Arlington à l'abbaye de Westminster, où gît un Tommy inconnu.
Et nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous jeudi à partir de 13h sur les ondes de SBS French. Entre-temps, n'oubliez pas de télécharger nos podcasts gratuitement sur sbs.com.au/french. Et je vous laisse en compagnie de la caravane qui nous interprète Mala Reputación avec la participation de Paloma Pradal. À très vite sur SBS.
Parece que tiene mala reputación, pero no necesita la invitación. Parece que tiene mala reputación.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.